Dr. Donald Fowler, contexte de l'Ancien Testament. Conférence 12, groupe populaire, Hourite, Hittite. Et Abiru. Symbole copyright 2024 de Fowler et Ted Hildebrandt. C'est le Dr. Fowler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 12, groupe populaire, Hourite, Hittite et Abiru. Je me sens obligé d'expliquer que mon dernier voyage à travers l'ancien Proche-Orient a été bref et que nous survolions le monde de l'érudition à environ 40 000 pieds d'altitude par une journée nuageuse. Mais il est important de se rappeler qu'à mesure que nous avançons dans le cours, il est important de se rappeler que le texte biblique peut être endommagé en utilisant à mauvais escient des matériaux anciens du Proche-Orient. Et donc, pour ceux d'entre nous qui croient en la Bible et aimeraient voir la Bible éprouvée, nous devons également faire attention à ne pas perdre notre objectivité lorsque nous utilisons le matériel. Le matériel a le droit de vivre par lui-même et il n'existe pas pour que nous puissions l'utiliser de manière polémique pour la Bible. Mais idéalement, nous voulons pouvoir conclure que l'archéologie est une amie de la Bible. Mais ce dont vous m'entendez parler, c'est de ce qui a été en grande partie une mauvaise utilisation de la Bible au fil des millénaires et des siècles. Je devrais dire comme si le but de la Bible était qu'il fallait prouver avant d'y croire. J'en suis vraiment venu à croire que si nous parvenons à la trouver depuis que nous venons de faire l'épopée de Gilgamesh, si nous pouvions concevoir la situation risible de trouver l'arche et d'entrer dans les recoins de l'arche, et là il s'avère que nous avons un message de Noé écrit en acadien, et dans le message Noé nous dit, « Je vous l'avais bien dit, cela ne va pas vraiment résoudre le problème de l'incrédulité. » Et cela nous rappelle en outre que l'archéologie a toujours des limites. Il y a des années, j'ai eu le privilège d'assister, en tant que jeune professeur, à une série de conférences d'Ed Yamauchi au Grass College, et j'en suis venu à le voir comme un homme d'une grande humilité, et Dieu merci, il est toujours en vie aujourd'hui. Mais les limites de l'archéologie ont été soulignées avec éloquence par Yamauchi dans cette déclaration. Premièrement, seule une fraction des preuves archéologiques survit dans le sol. Deuxièmement, seule une fraction des sites possibles a été détectée. Troisièmement, seule une fraction des sites détectés a été fouillée. Quatrièmement, seule une fraction d'un site antique est fouillée. Cinquièmement, seule une fraction de ce qui a été fouillé a été minutieusement examiné et publié. Enfin, seule une fraction de ce qui a été examiné et publié apporte une contribution aux études bibliques. Seulement une fraction. Je pense donc que nous avons parfois une sorte de vision romantique de ce que l'archéologie peut faire. Je me souviens avoir été un jeune homme et avoir entendu un jeune prédicateur d'une autre école monter en chaire et nous dire que l'archéologie avait prouvé la Bible. Eh bien, pour tous ceux qui ont lu l'archéologie, nous rions parce que même si l'archéologie a conféré une crédibilité générale à la Bible, du moins selon mon évaluation, elle ne l'a guère prouvée. Et c'est une utilisation abusive des preuves archéologiques en ce qui me concerne que de réduire l'archéologie à devenir une servante de la Bible, pour le prouver pour ainsi dire. Cela nous pose donc des problèmes lorsque nous sortons les choses de leur contexte d'origine. Ce que nous allons faire, c'est changer un peu le terrain ici et examiner le contexte des événements depuis l'Exode jusqu'au Juge. Je fais cela simplement pour nous rappeler que l'ancienne période babylonienne a pris fin vers 1620 environ. Et ce n'est que dans un demi-millénaire que nous aurons le prochain grand empire, et ce sera le plus grand de ces empires. Ainsi, pendant une longue période, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle la Mésopotamie n'a pas vraiment de superpuissance. Donc, je prépare rapidement le terrain pour la carte pour vous rappeler qu'à la fin de l'ancienne période babylonienne, Babylone est habitée par un peuple appelé les Cassites. Et ils gouverneraient Babylone plus longtemps que n'importe quelle autre dynastie. Ainsi, lorsque Babylone tombe, un groupe de personnes migre des régions montagneuses de Cassites vers les régions montagneuses de Zagros. Ils sont appelés Cassites et règnent sur Babylone depuis des siècles. Mais ils ne nous ont pas beaucoup quittés. Nous n'avons pratiquement aucune tablette écrite en Cassite, et nous ne sommes pas facilement en mesure d'écrire une histoire de Babylone à l'époque Cassite. Mais ils régnaient sur Babylone même s'ils ne régnaient pas sur tout le bassin mésopotamien. Il existe un deuxième groupe de personnes appelées les Hourites, peut-être ce que la Bible appelle les Hourites. Et les Hourites règnent également sur cette région. Vous pouvez voir leur patrie ici, à l'extrême nord de la Mésopotamie. Et eux aussi sont un peuple qui migre vers cette région. Ils n'y sont pas originaires. Comme les Cassites, ils ne sont pas des Sémites, ce sont des Indo-Européens. Et donc, nous voulons dire quelque chose à leur sujet. Ils sont apparus pour la première fois dans des documents écrits des 2200, mais ils ont probablement migré vers la haute Mésopotamie dans les années 24 à 2200. À l'époque babylonienne ancienne, ils étaient largement dispersés. Ils ont été mentionnés pour la première fois en tant que groupe ethnique Amhari. En 1635, ils attaquent le sud de l'Anatolie. Vers 1480, ils règnent sur Kizuwatna, qui se trouve dans la région de la Cappadoce du Nouveau Testament. Les Assyriens l'appelaient Kwi, ou Calicia classique. Ainsi, entre 1600 et 1400 environ, ces Hourites constituaient la principale force ethnique du grand royaume du Mitanni. Leur capitale, Ouachukani, est l'autre grande ville royale qui n'a pas encore été retrouvée. Le Mitanni était la véritable puissance sur la scène mondiale jusqu'à ce qu'il soit attaqué par le roi Hittite Supiluliuma en 1370. Alors, quand je mets ceci sur la carte pour vous montrer le royaume du Mitanni, ici, il s'appelle simplement les Hurrites. Mais ce royaume du Mitanni gouverna pendant plusieurs siècles la moitié supérieure de la région mésopotamienne. Et ils furent un acteur majeur jusqu'à ce qu'ils se retrouvent pris dans une étreinte entre les Hittites et les Mésopotamiens. La langue de l'empire mitannien était le hurrien, même si, chose intéressante, nous savons, en étudiant les noms de leurs dirigeants, qu'ils n'étaient pas des hurriens. Il se peut que leurs dirigeants viennent de quelque part en Iran ou même en Inde. Il semble que ce soit l'introduction des chevaux à grande échelle qui en ait fait une puissance militaire. Ils sont probablement identifiés aux Hurrites bibliques qui ne sont mentionnés que dans la Genèse et le Deutéronome. Il faut mentionner qu'ils étaient les plus dispersés de tous les peuples qui ont émigré en Mésopotamie. En 1450, le roi mitannien Sostartar fut vaincu par Toutéhémosis III, perdant une grande partie de son territoire syrien. Toutéhémosis Ier, Toutankhamon, a conclu un traité avec lui et le nord de la Syrie a été restitué aux Mitanni. Sostartar et son successeur Tusrata ont donné leur fille en mariage au pharaon. Donc, l'intérêt de nous expliquer cela est que dans la période juste avant l'exode biblique, en supposant la date précoce de l'exode, il y avait trois grandes puissances. L'Égypte au sud, le Mitanni au nord de la Mésopotamie et les Hittites dans ce qui serait la Turquie actuelle. Après 1370, ce chiffre fut réduit à deux car les Hittites avaient réussi à provoquer la fin du royaume hourrite. Donc, pendant que nous prenons juste un moment pour regarder notre carte, si nous regardons une carte pratique comme celle-ci, cette région ici en plusieurs couleurs, saumon, violet et vert, cette zone ici était l'Empire Hittite. L'Empire Mitannien était cette région au nord comme celle-ci, puis le royaume égyptien était ici. Après 1370, ce que nous disons, c'est que le royaume hourrite qui existait ici a disparu. Et tout ce que nous avons, c'est l'Empire Hittite. Les Hittites sont, je trouve, un groupe de personnes intéressants. Je vous ai donné, comme je l'ai fait dans tout mon matériel d'introduction, des lectures que vous pouvez choisir à votre propre discrétion si vous souhaitez y donner suite. Ce n'est pas aussi actuel qu'il devrait l'être, mais vous pouvez néanmoins apprendre ce qui doit être appris en suivant ces références bibliographiques. Lorsque nous étudions les Hittites, nous avons un problème car nous n'avons qu'un seul mot, le mot Hittite, mais comme nous l'avons vu dans le mot Amhorite, ce mot peut avoir plusieurs identités. Ainsi, le premier terme est que le mot Hittite est utilisé pour désigner les premiers habitants de l'Asie mineure centrale, généralement identifiés en créant une orthographe ou une prononciation différente du mot Hittite. Nous appelons ces habitants originels les Attiens. Le nom de cette région d'Anatolie centrale s'appelait Attilan. Ainsi, depuis des temps immémoriaux, cela s'appelait Attilan, et donc ces peuples avant 2000 avant J.C. étaient appelés Attiens. Attien est en réalité la même chose que Hittite, mais Hittite est un terme amorphe. Cela peut vouloir dire trop de choses différentes. Donc, ce que nous allons dire, c'est que les habitants de l'Asie centrale avant 2000 avant J.C. étaient des Attiens, et pour autant que nous le sachions, ils étaient dans cette région de l'Anatolie centrale depuis des temps immémoriaux. Cependant, vers 2000 avant J.C., un deuxième groupe ethnique a émigré dans cette région. Il s'agissait d'une migration d'Indo-Européens vers l'Asie mineure centrale, et nous en sommes venus à les appeler des Hittites impériaux. Il y a une génération ou deux, on les appelait parfois Néchites, mais les gens ne semblent plus utiliser ce terme. Entre 1700 et 1190 environ, ils constituaient une force politique majeure dans l'ancien Proche-Orient. En fait, il y a eu une période allant de 1370 jusqu'à la fin du royaume impérial hittite, où les Égyptiens et les Hittites se partageaient simplement le monde. Ce groupe, qui aurait régné à l'époque des patriarches, jusqu'au milieu du livre des juges, était donc la période que nous appelons les Hittites impériaux. Vers 1200, juste pour vous donner une date approximative, le royaume impérial hittite a implosé et a pris fin. Et quand il a implosé et s'est littéralement effondré, alors les habitants de cette région, à la recherche d'une carte un peu meilleure, les habitants de ce royaume d'Asie mineure centrale, les vestiges de cela, ont émigré vers le sud ici, et dans l'extrême nord de la Syrie, ils ont établi une confédération de cités-états, qui se distingue par les historiens en les appelant néo-hittites. Ce troisième groupe, les néo-hittites, était le résultat de l'un des plus grands événements de l'histoire du monde, le mouvement des peuples de la mer. Ainsi, ces restes ont fui vers les montagnes du Tauru, dans le nord de la Syrie, où ils ont formé une confédération de cités-états appelée cités-états néo-hittites. Donc, afin de nous donner un âge approximatif pour ce troisième terme, cette troisième utilisation du terme hittite, nous allons leur donner les dates de 1200 à environ 800. Or, dans la Bible, 1200 nous place au milieu du livre des juges et nous emmène ensuite dans la période de la monarchie divisée, lorsque David et Salomon sont morts et que le royaume s'est divisé en deux entités, le royaume du nord et le royaume du sud. Ainsi, lorsque nous examinons ces trois possibilités et les comparons au récit biblique, voici ce que nous dirions. Les Hittiens originaux ont précédé même Abraham, mais ensuite le deuxième groupe, les Hittites impériaux, ont couvert la période patriarcale jusqu'au milieu du livre des juges, puis les Néo-Hittites ont couvert la période allant du milieu des juges jusqu'à la période divisée. Monarchie, monarque. Or, tout cela a conduit à une confusion dans la Bible lorsque nous voyons le mot Hittite, car nous n'avons qu'un seul mot. Le récit biblique ne fait pas de distinction entre les Hittiens, les Hittites impériaux et les Néo-Hittites, ni entre le mot Hittite tel qu'il a été utilisé par les Assyriens à une date ultérieure. Les Assyriens appelaient simplement tout ce qui se trouvait à l'ouest de l'Assyrie Attilan. Cela nous pose donc un problème lorsque nous lisons notre Bible. Quand je vois le mot Hittite, je suis confronté à un ensemble chronologique confus de possibilités. Voyons si je peux illustrer ce que je veux dire. Lorsque l'épouse bien-aimée d'Abraham, Sarah, décède dans la région d'Hébron, beaucoup d'entre nous dans notre tradition anglaise l'appellent Hébron. Hébron se prononce en fait Hébron. Et donc, dans notre tradition biblique, dans la Bible, Hébron se trouve ici, dans le sud de Juda. Quand Sarah mourut, Abraham avait besoin d'un lieu de sépulture, et ainsi, dans la région d'Hébron, Abraham acheta un terrain funéraire à un individu appelé Éphron le Hittite. Donc, il achète ce site funéraire à Éphron le Hittite, et donc nous lisons notre Bible, et vous avez eu cette introduction incroyablement brève aux Hittites, et donc vous réalisez maintenant que vous devez vous poser la question, eh bien, de quel Hittite parle-t-on? Est-ce qu'il parle des Hittiens? Parle-t-il des Hittites impériaux? S'agit-il des Néo-Hittites? Eh bien, disons que Sarah est décédée vers 2000, juste pour donner une date approximative. Eh bien, comme vous pouvez le voir clairement, c'est la date marquante pour la migration des personnes qui sont devenues les Hittites impériaux. Donc, quand il est écrit Éphron le Hittite, cela crée un point d'interrogation parce que nous ne savons pas si cet Éphron était d'une manière ou d'une autre l'un des premiers Hittiens qui ont fait tout ce chemin jusqu'à Hébron ou s'il fait partie de la migration des peuples impériaux Hittites qui ont émigré en Asie mineure centrale, ou le texte biblique fait-il référence à cela comme terme géographique, et si c'est le cas, alors cela serait sous l'influence de l'utilisation assyrienne du terme. Car si ce cas est possible, alors Éphron n'était pas du tout d'origine hittite, mais le texte de la Genèse dit simplement qu'il était un occidental. Ainsi, comme vous pouvez le voir, au moment où nous arrivons à Abraham, et que le texte parle d'Éphron le hittite, nous ne savons pas, nous n'avons aucun moyen de déterminer son identité. En d'autres termes, s'il s'agit d'un habitant d'Asie mineure centrale, nous nous poserions la question, que diable fait un hittite aussi loin au sud dans la région que nous appelons la Palestine? Il s'agit donc, je pense, d'un cas de test modestement intéressant pour nous. Quand nous avons Éphron le Hittite, qui est-il? Et comme vous pouvez le constater à partir des situations auxquelles nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas vraiment répondre à cette question. Il y a un autre Hittite dans l'Ancien Testament. Il est bien plus célèbre que Éphron, et son nom est Uri. Maintenant, vous vous souvenez peut-être d'Uri comme du mari de Bethsabée. Le texte nous apprend que Uri était un mercenaire hittite de l'armée de David. Or, David aurait eu environ 1000 ans avant J.C. Je suis désolé, oui, 1000 avant J.C. Ainsi, si nous regardons Uri vers 1000 avant J.C., nous pouvons regarder ceci et dire que David l'était, que Saül était roi d'environ 1050 à 1010. David aurait été roi de 1010 à 970. Cela signifiait donc que Ri aurait été roi de 1010 à 970. Quelqu'un qui était vivant. Puisque Ri aurait été plus proche de 970 que de 1010, peut-être pourrions-nous placer Ri en quelque sorte au milieu. Mais nous nous posons la question, s'il est Hittite, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il n'est probablement pas lié aux Attiens d'origine, sinon certainement. Cela signifierait qu'il ne vient probablement pas de la période de l'Empire Hittite. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il aurait été un néo-Hittite, et cela explique pourquoi il était un mercenaire. Parce que, si nous regardons le terme Hittite, voici ce qui se serait passé. Dans cette région, ici au pied des contreforts où se trouvaient les cités-états néo-Hittites, dans le monde qui a suivi le grand mouvement populaire de la mer, il est très probable que le néo-Hittite Uriah s'était engagé comme mercenaire pour aider à l'accord post-Sea People's World. Avec la question d'un tout nouveau monde suite à cet événement catastrophique des peuples de la mer. Cela nous donne donc une méthodologie qui mérite d'être connue. Nous avons un nom, mais nous devons nous poser la question, comment ce nom est-il utilisé? Ainsi, dans ce cas particulier, Hittite, alors, dans le cas du Ri, signifierait presque certainement qu'il était un néo-Hittite. Le Hittite impérial, c'est-à-dire la langue de l'Empire des Hittites, était une langue écrite à la fois en écriture cunéiforme et hiéroglyphique. Cependant, la grande majorité des archives hittites est écrite en écriture cunéiforme plutôt qu'en hiéroglyphe. Hiéroglyphe ne veut pas dire égyptien. Cela signifie une sorte d'écriture artistique qui ressemble à l'écriture égyptienne, mais qui est en réalité la langue hittite. La majeure partie de la langue néo-sémitique indo-européenne a été fouillée par un érudit tchécoslovaque du nom de Bodrich Rozny dans la capitale de l'Empire hittite, appelée Atoscha. Là, il trouva ce qui était la capitale de l'Empire et trouva la tablette. L'un des objectifs, je suppose, de tout archéologue est de trouver la capitale, le palais, puis les archives royales. Rosie a donc eu la chance de découvrir cela et a ensuite commencé à déchiffrer la langue hittite parce qu'elle n'est pas sémitique, c'est indo-européen. Et c'est là qu'il commença à le déchiffrer, et ainsi, les tablettes hittites extrêmement importantes furent mises dans une langue indo-européenne. La traduction anglaise de base des lois était à l'origine la traduction de Neufeld, les lois hittites. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons l'édition en trois volumes publiée par Brille et éditée par W.W. Allo, et vous pouvez lire les tablettes hittites en traduction anglaise dans leur forme la plus récente dans ce volume édité par Rello intitulé The Context of Écriture. Ainsi, dans tous les cas, il appartenait au savant allemand Rosy de noter que dans ces tablettes hittites, il y avait une forme aux diverses lois qui se répétaient tout au long de ces tablettes dans le Proche-Orient ancien. Rosy a noté cette forme que l'on retrouve dans le reste des tablettes des traités du Proche-Orient ancien, et il a suggéré qu'il y avait six caractéristiques de composition majeures dans ces traités. Il a reconnu qu'il y avait un préambule au document. Il a identifié une histoire antérieure, c'est-à-dire un traité entre deux puissances, il a donc reconnu qu'il y avait une histoire antérieure répertoriée du point de vue des deux. Troisièmement, il y avait une déclaration de fond concernant les relations futures des deux participants au traité. Quatrièmement, il y avait des stipulations spécifiques, nous les appellerions des lois régissant la relation. Cinquièmement, puisque le traité était un document légal et officiel, les dieux étaient alors invoqués comme témoins du traité. Et puis enfin, il y avait des malédictions et des bénédictions si les deux participants étaient fidèles au traité, des malédictions si l'un d'eux ne l'était pas. Eh bien, cette observation a conduit à reconnaître que le même concept général gouvernait, comme le livre du Deutéronome. L'un des ouvrages utiles est celui de l'érudit allemand Klaus Belzer, qui a initialement publié ce document en allemand, mais il est désormais disponible en anglais, bien qu'il soit épuisé, la dernière fois que j'en ai entendu parler. Le formulaire de l'Alliance. En cela, nous pouvons voir que le même format approximatif apparaît dans la Bible, le préambule, le prélude historique, la déclaration de base, les conditions plus détaillées et l'approbation formelle du vassal. En d'autres termes, lorsque nous l'appliquons à Josué 24, la même liste approximative, que nous appellerions un format de traité, apparaît dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le voir dans Josué chapitre 24, et vous pouvez le voir dans le livre du Deutéronome. En fait, ce même format a été appliqué au Deutéronome. Le grand érudit presbytérien du Westminster Theological Seminary a reconnu ce même format de traité dans le livre du Deutéronome et a écrit un livre merveilleux, qui est maintenant, bien sûr, assez obsolète, appelé le Traité du Grand Roi. Dans ce livre, Kline a montré que le même format de traité, reconnu dans les traités hittites, correspond également à la manière dont le livre du Deutéronome est écrit. Maintenant, nous ne voulons pas donner au public l'impression qu'il y a eu une copie ici. Ce qui s'est produit, c'est qu'une manière commune de conclure des traités s'est répandue dans tout le monde antique. Et cette diffusion s'est pratiquement retrouvée dans toutes les cultures. Ainsi, partout où il y avait des traités, ils suivaient ce format général approximatif. Ainsi, l'une des choses que nous pouvons constater est que les anciens peuples du Proche-Orient suivaient un format de traité commun qui nous révélait que le monde entrait dans un nouvel âge d'or, une ère de relations diplomatiques dans tout le croissant fertile, y compris relations conventionnelles avec l'Égypte. Ainsi, le Deutéronome en tant que livre peut être compris comme un document dont les grandes lignes suivent le même format de traité. Dans ce cas, dans le Deutéronome, le traité est conclu entre le grand roi, Jaffé, et les Israélites. Moïse aurait été la personne qui concluait officiellement le traité avec Jaffé. Ainsi, le Deutéronome semble suivre, d'une manière générale, ce même format. Or, si l'empire impérial des Hittites a pris fin en 1200 et que Moïse a écrit son document en 1400, alors certains ont tenté d'utiliser ces dates comme argument pour prouver que Moïse écrivait tôt, plutôt que comme une théorie critique, qui a « il écrivait tard », voire pas du tout. Nous ferions probablement mieux de ne pas essayer d'utiliser ces dates pour tenter de prouver la date précoce de Moïse, car, en effet, le format de traité que nous vous avons montré est plutôt intemporel. Il n'est donc pas utile d'essayer de proposer une date précoce pour Moïse sur la base de ces phénomènes. Mais on peut dire que Moïse était le roi d'Israël qui a conclu un traité avec le Seigneur. Ainsi, les documents hittites ont été très utiles en nous donnant les premiers résultats d'un traité international. Si je pouvais passer à un autre groupe ethnique, j'aimerais vous parler des Abirus. Je sais, pour avoir enseigné cela en classe, que c'est l'un des domaines les plus difficiles à maîtriser pour mes élèves. Quelques-uns d'entre eux parlent même l'hébreu. Et bien sûr, lorsqu'ils ont appris l'hébreu, ils l'ont appris beaucoup plus rapidement que les étudiants qui ne l'ont pas appris. Alors peut-être que je pourrais profiter de cette opportunité pour partager avec vous dans l'auditoire et dire qu'il n'y a aucune raison biblique pour laquelle vous ne pouvez pas étudier l'hébreu. En fait, pour le dire en termes plus positifs, dans le monde d'aujourd'hui, mes amis, vous pouvez aller dans des endroits comme Zondervan, et vous pouvez acheter du matériel en ligne qui vous permet d'utiliser la grammaire hébraïque, et vous pouvez étudier l'hébreu directement dans votre salon. Et ainsi, ou partout où vous avez votre ordinateur. Donc, je vous encouragerai à viser haut. Je vous encourage à pouvoir étudier la Bible en utilisant l'hébreu et le grec. Vous savez, de son vivant, Martin Luther a enseigné à son monde que rien ne pouvait remplacer l'étude de la Bible dans les langues originales. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Ainsi, alors que nous nous apprêtons à parler du problème du Abiru, je voudrais vous suggérer qu'il n'y a aucune raison pour que beaucoup d'entre vous ne puissent pas, en utilisant leur ordinateur, utiliser les nombreux matériels qui existent pour vous permettre d'étudier l'hébreu. Tout seul. Eh bien, pourquoi les Hébreux sont-ils appelés Hébreux ? Au chapitre 14 du livre de la Genèse, Abraham est appelé l'Hébreu. C'est la première fois que nous utilisons le terme. Au chapitre 14, verset 13, « Alors un fugitif est venu et a parlé à Abraham, Hébreu l'Hébreu. » Eh bien, dans Genèse 14, 13, nous nous posons la question, pourquoi Hébreu a-t-il été appelé l'Hébreu ? Qu'est-ce que ça veut dire là ? Eh bien, laissez-moi simplement écrire au tableau pour vous la façon dont nous procéderions. Maintenant, vous remarquerez ceci. Vous savez tout que l'Ancien Testament est rempli d'items. Cananéens, parasites, hittites, israélites. Eh bien, en hébreu, aucun de ces éléments n'existe. Peut-être que cela nous vient de la Septante, mais tous ces gens que nous appelons Hittites sont tous des gens qui se terminent par le sigle I. C'est vraiment cananéen, pas cananéen. Ce n'est vraiment pas israélite, mais c'est israélien. Donc, ou béné Israël, les enfants d'Israël. Les Hébreux sont en réalité appelés les Ivrites. Alors, nous allons nous poser la question, pourquoi Abraham est-il appelé l'Hébreu au chapitre 14, verset 13 ? Il y a plusieurs explications, il y a toujours plusieurs explications. Je trouve que c'est juste comique. Quand j'avais 20 ans, disions-nous, il y a maintenant deux points de vue sur cette question. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles informations que nous avons trouvées, ce que nous vous disons, c'est qu'il y a en fait 10 vues pour cela. Comme trouver des informations. Plus nous trouvons d'informations, plus nous avons simplement d'explications possibles. Alors que nous essayons de répondre à la question, pourquoi Abraham est-il appelé l'hébreu? Il existe diverses explications. Une idée relativement populaire est qu'Abraham est appelé l'hébreu parce qu'il avait un ancêtre nommé Héber. Au chapitre 10, verset 24, en hébreu, ce mot apparaît ainsi avec des voyelles différentes, Héber, mais c'est le même mot. Ici, c'est orthographié un peu différemment avec des voyelles différentes, mais ce sont les mêmes consonnes racines en hébreu. En d'autres termes, les mêmes consonnes racines que celles-ci partagent sont cette marque de respiration rugueuse, le B et le R. Ce sont trois consonnes que ces deux partagent en commun. Évry et Héber partagent trois consonnes. Ils s'écrivent différemment avec les voyelles, mais ils partagent trois consonnes. D'accord. Donc, si vous consultez vos bibles d'études en anglais, il existe actuellement quoi, 20 ou 30 bibles d'études en anglais différentes. L'une des explications les plus courantes pour lesquelles Abraham est appelé l'hébreu est qu'il est un descendant d'Héber. Héber, je le mentionne dans nos notes, était fils de Shlak, fils d'Arpakshaïd, fils de Sem, père de Peleg, grand-père de Rou, arrière-grand-père de Serug, qui engendra Ner, le grand-père d'Abraham. Bon, je ne sais pas, mais je me poserai la question dans ce paragraphe. Dans ce paragraphe sur les ancêtres d'Abraham remontant à plusieurs générations, j'ai lu cela, et je me pose la question, Héber a-t-il fait quelque chose de suffisamment important pour qu'Abraham soit appelé, c'est littéralement l'Hébérite. Pourquoi Abraham serait-il appelé l'Hébérite? Parce que si vous revenez à Genèse 14 et que cela commence à devenir confus, alors arrêtez-moi avec vos questions. Eh bien, attendez une minute, nous ne pouvons pas faire ça parce que c'est en ligne. J'aimerais que vous puissiez m'arrêter pour que je puisse réexpliquer si nécessaire car c'est vraiment déroutant. Dans la langue hébraïque originale, ce que nous avons ici est l'article défini. Le. Donc, si Abraham est l'Hébérite, nous devrions nous poser la question, qu'est-ce que Héber a fait dans cette liste de noms qui était si important qu'Abraham soit appelé l'Hébérite? Je m'attendais à ce qu'il soit appelé le Shemite puisque Shem est bien plus important que Héber. Ou même Peleg. Mais nous regardons cela et nous nous posons la question, qui est Héber pour qu'on l'appelle l'Hébérite? Donc, ma première question pour répondre à cette question serait, qui est Héber? Et deuxièmement, pourquoi l'article défini? Or, l'hébreu et l'anglais n'ont pas beaucoup de points communs. Mais les deux langues partagent un tout petit point commun. On ne met pas l'article défini sur les noms propres. Parce qu'ils sont automatiquement définis. Ma femme s'appelle Peg. Je ne dis pas, la Peg, parce qu'elle est Peg. C'est automatiquement définitif. Ainsi, en hébreu, on ne met pratiquement jamais l'article défini sur un nom propre. Qu'il s'agisse du nom d'un pays ou d'un nom de personne, on ne met pratiquement jamais l'article défini sur un nom propre. Nous avons désormais un président qui, avant son élection, était surnommé le Donald. Mais autant que je sache, c'est la seule personne dont j'ai entendu parler dans ma vie qui avait l'article défini devant son nom. Alors, on se pose la deuxième question. Pourquoi si l'hébreu est un nom propre, l'article défini le précède-t-il? C'est pratiquement sans précédent. Ce sont donc deux problèmes que j'ai pour expliquer que Héber est l'ancêtre de la raison pour laquelle Abraham est appelé l'hébreu. J'espère donc que vous pourrez l'obtenir à ce moment-là. Ce n'est pas encore trop mal. Un problème avec cela est alors pourquoi est-il appelé l'Hébérite? Parce que qui était Héber et qu'a-t-il fait pour qu'Abraham soit appelé l'Hébérite? Et deuxièmement, pourquoi y a-t-il l'article défini? Donc, je pense que ce sont des problèmes avec la première explication de la raison pour laquelle Abraham est appelé l'hébreu, même si c'est probablement l'explication courante dans les bibles d'études selon laquelle Abraham est appelé le descendant d'Héber. Donc, si je peux, je vais les effacer et chercher une deuxième explication à cela. Le très célèbre érudit William Albright a proposé il y a une génération et demie qu'Abraham était appelé l'hébreu parce que le mot hébreu doit être lié à une racine acadienne qui a été traduite par conducteur d'âne. En d'autres termes, ayant grandi à l'époque où Hollywood produisait plus de westerns que de drames, Abraham était un écorcheur de mules. Aujourd'hui, chaque fois que je dis cela dans ma classe, mes élèves me regardent avec des expressions complètement vides parce qu'ils n'ont jamais entendu le terme écorcheur de mules. Mais quand j'étais enfant, écorcheur de mulets signifiait que vous utilisiez des ânes pour transporter des choses. Vous étiez conducteur d'ânes. Eh bien, c'était une proposition intéressante, mais apparemment, Albright est mort sans que personne n'ait jamais adopté sa suggestion. Je n'ai moi-même jamais lu nulle part où Albright avait adopté, excusez-moi, où quelqu'un avait adopté la proposition d'Albright, mais ce qu'il suggérait qu'Abraham était appelé le conducteur d'âne parce que quand Abraham est venu vers l'ouest, il avait un très grand nombre de personnes et il avait donc eu un très grand nombre d'ânes et c'est pourquoi il a été nommé ainsi parce que ces ânes, qui auraient peut-être été par centaines sinon plus, caractérisaient son mouvement. Mais il n'y a vraiment aucune preuve qui nous suggère que c'est la bonne explication du pourquoi d'Abraham, car après tout, s'il était appelé le conducteur d'âne, pourquoi alors toutes les générations suivantes d'Israélites ont-elles été appelées hébreux? Pourquoi ce nom est-il resté s'il était simplement lié à l'emploi par Abraham d'un grand nombre d'ânes? Le troisième point de vue est tiré du sens du verbe, et ce point de vue, je pense, est la meilleure réponse. En hébreu, théoriquement, toutes les racines, tous les mots racines en hébreu ont trois consonnes. S'ils ont plus de trois consonnes ou moins de trois consonnes, il s'agit probablement de mots empruntés. L'hébreu est mathématiquement une langue dans laquelle tous les mots, à moins qu'ils ne soient des mots empruntés, ont trois consonnes. Donc, ces trois consonnes, rappelez-vous que cela ressemble à une virgule, mais c'est ce qu'on appelle une marque de respiration difficile, c'est un CH. Ainsi, ces trois consonnes en hébreu proviennent d'une racine qui signifie traverser, traverser. Et donc ce que je suggérerais comme explication de la raison pour laquelle les hébreux ont été appelés hébreux, c'est parce que le grand acte de foi d'Abraham traversait. Ainsi, quand nous regardons Abraham, Abraham quittant Ur, je pense qu'Ur était ici près de Charon, dans le nord de la Mésopotamie, donc le grand commandement de Dieu d'Abraham pour lequel il a trouvé la foi salvatrice était qu'il avait la foi de croire en Dieu, de quitter sa patrie et de la traverser littéralement. Il a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres, mais il a également traversé plusieurs rivières. Ici, il traversa la rivière Baalik, et ici il traversa l'Euphrate. Abraham était appelé l'hébreu, je dirais, parce qu'il a littéralement quitté son pays natal pour venir dans le pays que Dieu lui a donné. Cela nous explique aussi pourquoi nous aurions l'article défini parce que l'article défini en hébreu s'écrirait avec un H, et donc ceci s'écrit ici Ivri, maintenant c'est Ivri, et Ivri est là où je pense que le mot hébreu venait de. Ainsi, les hébreux que je vous propose sont appelés hébreux parce que le grand acte de foi d'Abraham a été de quitter son pays natal pour obéir à Dieu. Ainsi, au chapitre 14, verset 13 de la Genèse, Abraham est, en substance, appelé celui qui a traversé. Donc, à mon avis, c'est la bonne explication. Maintenant, je serai rapide, je devrais être plus rapide pour vous dire que je peux ou non représenter une opinion majoritaire sur cette question. Certains de mes amis les plus proches n'acceptent pas cette proposition. Cela revient donc à dire que vous avez vraiment le choix entre deux. L'un est appelé l'hébrite et les deux autres sont appelés celui qui traverse. Donc, vous pouvez avoir votre choix, mais pour autant que je sache, ce sont vos deux choix quant à la raison pour laquelle les hébreux sont devenus appelés hébreux. Maintenant, peut-être que vous l'avez compris. Ce n'est peut-être pas trop déroutant, et peut-être que nous le pouvons, la plupart d'entre nous ressentons encore un sentiment de communauté. Nous nous comprenons. Nous sommes heureux de cette opportunité d'être ensemble mais maintenant je vais continuer la discussion et dans la tradition chrétienne d'où je viens, je vais arrêter de prêcher et me mêler. Parce que cela devient beaucoup plus compliqué quand on réalise que dans le monde antique existait un phénomène appelé Abiru. J'ai commencé notre discussion ici avec le terme Abiru. Ainsi, en examinant notre discussion, nous allons dire que nous avons deux mots qui se ressemblent beaucoup. Les deux mots sont Abiru et Hébreu. Et donc, la question que nous nous posons est la suivante, ces deux choses signifient-elles la même chose ou signifient-elles des choses différentes? C'est la question que nous allons poser. Ainsi, en examinant cela, nous vous dirons qu'une suggestion populaire est celle de certains érudits évangéliques selon laquelle ces deux mots signifient la même chose. Abiru et l'hébreu sont la même chose. Encore une fois, j'ai des amis qui tiennent à cela. Ainsi, ce point de vue soutient qu'Abraham était appelé hébreu parce qu'il était en réalité un abiru. Alors qui diable sont les abirus? Je ne suis pas sûr que nous puissions obtenir une réponse à cette question dans le temps que nous avons réservé pour cette bande, donc cette discussion pourrait se répercuter sur la bande suivante. Mon caméraman me dira quand je devrais filmer ça. Abiru est un terme, c'est un mot acadien, non pas pour une nation mais pour un phénomène politique, un phénomène géopolitique. Droite. Maintenant, pourquoi les évangéliques voudraient-ils utiliser ce terme? Eh bien, c'est parce qu'à peu près à l'époque où Josué faisait venir les Israélites dans le pays, nous avons des lettres trouvées en Égypte, dans lesquelles divers royaumes de Palestine écrivaient des lettres aux rois égyptiens disant que les Abirus sont venus, envoyer des troupes. D'accord. Disons-le comme ça. Ainsi, à partir de 1370 environ, pendant environ 20 ans, Josué mène les forces militaires d'Israël dans la conquête du pays, et pendant qu'il fait cela, il y a, en fait, nous avons le roi de Jérusalem, il s'appelait alors Jébu, mais nous avons le roi de Jérusalem écrivant des lettres aux pharaons égyptiens disant que les Abirus arrivent et qu'il envoie des troupes. Les érudits évangéliques ont donc trouvé intéressant de soutenir que Abiru et l'hébreu sont donc la même chose et que ce qui se passe, c'est que les hébreux arrivent dans le pays, et nous avons maintenant des preuves archéologiques pour prouver que les hébreux entrent dans le pays. Terre parce que les rois résidents demandent de l'aide aux Abirus. D'accord. J'espère donc avoir été clair d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas quoi faire face au problème puisque nous faisons simplement une conférence et non une interaction. Mais nous allons mettre la discussion sur pause car ce que nous devons faire avant de commencer à dessiner des visages heureux, c'est d'accepter le point d'interrogation. Donc, ce que nous allons faire, c'est jeter un œil au mot acadien Abiru et voir ce que le mot signifie en acadien avant de nous permettre le luxe de conclure que Abiru et l'hébreu sont la même chose. Donc, cela me semble un bon endroit pour faire une pause dans notre discussion, et ensuite, quand nous reviendrons, ce que nous allons faire, c'est regarder la signification acadienne de Abiru, et ensuite, quand nous aurons compris cela, nous pourrons tirer notre conclusion. À savoir si nous avons la preuve de la conquête ou si nous n'avons pas cette preuve de la conquête. J'espère que c'est un bon endroit pour interrompre notre discussion. C'est le docteur Dofauler dans son enseignement sur les antécédents de l'Ancien Testament. Il s'agit de la session 12, groupe populaire, Ourit, Hittite et Abirus.